Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Quand avez-vous perdu votre sang-froid pour la dernière fois? Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner votre maîtrise de vous-même et à vous mettre en colère? Qu'avez-vous dit que vous avez regretté plus tard? Dans un accès de colère, chacun d'entre nous, y compris moi bien sûr, nous pouvons dire ou nous pouvons faire des choses irrationnelles que nous pourrions regretter à jamais, et pour lesquels nous pourrions payer aussi de lourdes pénalités. Quelle est la solution pour sortir de ce cycle répétitif de colère, qu'il soit fréquent ou qu'il soit occasionnel? Certaines personnalités dans la Bible ont laissé la colère déborder à un point, à certains moments, et ces choses ont été écrites pour nous. Nous pouvons donc comprendre les tentations qui peuvent surgir et qui peuvent devenir aussi des pièges à colère. Cette compréhension nous est donnée, il est d'autant plus important de ne pas la laisser de côté, mais de l'exploiter, de l'explorer également, avec bonne volonté, et de mettre en œuvre les moyens existants pour lutter dans le bon sens et au final pour mieux gérer la colère. C'est le but. L'une des premières choses que nous devons nous demander, par exemple, c'est peut-être s'il y a dans notre entourage des personnes qui ont tendance à nous taper sur les nerfs, à nous énerver. Oui, cela peut arriver. Prenez l'exemple d'un enfant qui n'arrête pas de se dandiner, de bouger dans tous les sens, alors que nous essayons de nous concentrer sur quelque chose de précis. Et des situations, des personnes, des individus qui nous énervent, parfois ça peut arriver pour de mystérieuses raisons. Disons-le. Peut-être aussi pouvons-nous rencontrer une personne, un collègue de travail, qui a tendance à nous taper un peu sur les nerfs à cause de son attitude orgueilleuse, ou que nous croyons orgueilleuse ou vaniteuse, alors que peut-être il croit bien faire. Peut-être a-t-il aussi, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être, une opinion particulière au sujet des bonnes manières, au sujet de son élégance peut-être, de ce qu'il dit. Et nous côtoyons des gens qui peuvent être d'une culture différente ou qui ont des habitudes différentes. Différentes de ce que nous pensons être les canons des bonnes manières, les canons de la beauté, les canons du bon goût, que sais-je. Ils n'ont pas la même notion que nous de l'expression légitime de ces bonnes manières ou de ce bon goût. Comment pouvons-nous gérer ce qui peut nous irriter? Comment supportons-nous l'irritation? Jusqu'à quel point? Comment réagissons-nous quand ces choses se font jour? Avez-vous aussi rencontré des gens qui cherchent volontairement à vous provoquer, à irriter les autres intentionnellement pour les tester, pour peut-être savoir, parce qu'ils prétendent être chrétiens par exemple, est-ce qu'ils le sont vraiment? Le sont-ils vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à gratter sous le vernis de leur apparence? Cela peut arriver, mais il existe aussi bien d'autres circonstances au cours desquelles nous pourrions ressentir, disons, une certaine irritation. Et je veux parler ici d'une colère injuste, uniquement, d'une colère injuste. Nous verrons au cours de ce sermon, du reste, qu'il existe une colère qui, elle, est juste. Mais le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est bien celui de la colère injuste, celle dont les gens sont les témoins quotidiens. Dans bien des cas, c'est une situation où l'on sera soi-même perdant, de même que là où les personnes qui nous irritent. Notre colère est-elle donc juste, ou bien se pourrait-il qu'elle soit malsaine? Auquel cas, il nous appartient de nous maîtriser. Alors, comment faire? Comment maîtriser sa colère et éviter de s'irriter dans un monde qui plus est, où les outrages ou la violence sont de plus en plus monnaie courante? Voyez-vous, dans la Bible, Dieu pose des questions. Il nous pose des questions. Et il interroge souvent telle ou telle personnalité dans la Bible sur les raisons de sa colère. Ces questions qu'il leur pose et finalement qu'il nous pose peuvent nous aider à estimer si notre ressentiment, notre irritation, voire même notre crise de nerfs, dans certains cas, si cela est justifié ou si cette chose est malsaine. Au début de la Bible, Dieu interroge Caïn. Caïn, l'aîné des fils d'Adam et de Ève, et que s'est-il passé? Reportons-nous à Genèse chapitre 4, verset 6. Donc Caïn avait présenté une offrande à Dieu, qui pensait-il était bonne, était même peut-être meilleure, nous ne savons pas, mais peut-être pensait-il qu'elle était meilleure que celle de son frère Abel. Et voilà qu'il présente cette offrande à Dieu, et Dieu n'a pas de considération pour cette offrande. Et au contraire, celle d'Abel va être agréée par Dieu. Alors, imaginez la relation entre les deux frères, imaginez aussi la réaction de Caïn en face de cette véritable humiliation. Il perd la face, son orgueil est battu en brèche, son visage est tout défait. Et Dieu le voit, il change de composition, il est abattu, la fierté de tous les jours ne s'y retrouve plus. Et il y a aussi un autre composant émotionnel, nous le voyons à travers ces pages, dans ces versets, c'est que Caïn change d'attitude profondément, il est irrité. Et il laisse cette irritation aller en grandissant. Dieu le voit, Dieu constate cela. Caïn est irrité de ce que Dieu n'a pas agréé son attitude, son offrande. Tandis que dans le même temps, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Caïn est en train de laisser sa colère grandir, il est en train de laisser sa colère le dominer. Et Dieu intervient. Dieu intervient ici pour l'encourager, non pas pour l'accuser. Il veut l'encourager. Le Dieu de l'Ancien Testament, nous le voyons ici, est un Dieu doux, un Dieu encourageant, conciliant. Il communique avec Caïn, et ici, il lui pose une question. Il va même lui en poser deux. Verset 6, Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Autrement dit, Dieu ici enseigne Caïn dans un style extrêmement efficace. Il ne lui dit pas « Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude ?» Enfin, reprends-toi, quoi. Non. Dieu pose une question avec douceur, avec gentillesse. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, c'est exactement le style de Jésus-Christ quand il enseigne. Il pose des questions. Il pose beaucoup de questions. De fait, Dieu ici encourage Caïn à penser. Quelle va être la réponse de Caïn? Quand on nous pose une question, la première chose c'est « je vais répondre ». Et ici, Caïn commence à penser, souhaitons-le. Dieu encourage Caïn à penser, c'est précisément la raison de toutes ces questions. Voilà qui va permettre aux gens de commencer à regarder, non plus vers l'extérieur, mais vers eux-mêmes. Et Caïn sait bien sûr pourquoi il est irrité. Cela ne fait absolument aucun doute. Nous venons de le voir, et peut-être ne sait-il pas que son visage est décomposé, au point que Dieu le lui fait remarquer. Attention, ça se voit quand même. Tu vois bien que ce n'est pas normal. Voilà en quelque sorte les choses qui peuvent surgir maintenant dans l'esprit de Caïn. Dieu ne veut pas et ne souhaite pas l'humilier davantage. Il sait très bien que cette humiliation est déjà là. Mais Dieu cherche à lui faire comprendre que non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose à faire. Fait-il bien de s'irriter? Qu'est-ce que tout cela va produire au final? Pas des bonnes choses, nous le savons. Alors sans plus attendre, il lui donne deux conseils. Immédiatement. Agis bien et domine sur le péché. Autrement dit, il y a une solution. Tu peux t'en sortir. Agis bien, domine sur le péché. Ne te laisse pas faire. Et il dit, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Autrement dit, tu retrouveras ta composition ordinaire, de tous les jours, normale. « Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » C'est intéressant cette phrase. Caïn sait ce que Dieu est en train de lui dire. Dieu n'est pas en train de prononcer des mots qu'il ne connaît pas. Le mot « péché » a du sens pour Caïn. Or, qu'est-ce que le péché? Nous le savons bien. C'est la transgression de la loi. Donc ces choses, Caïn les savait. Il connaissait la loi de Dieu qui enjoint donc les hommes à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas commettre d'adultère. Quoi qu'il en soit, Caïn sait que le péché couche à sa porte. Il comprend ces mots. Dieu l'enseigne d'une façon claire. Et il dit, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Voilà donc Dieu qui donne des conseils utiles à Caïn et qui lui permet, en lui brossant le tableau de ces choses, il lui montre la perspective de la réalité. Voilà ce qui risque d'arriver. Et il le met en garde. Attention, attention. Voilà ce qu'il faut faire tout de suite, là, maintenant, sans plus attendre, avant que le soleil ne se couche. Ne laisse pas ton irritation croître et prendre des proportions hors de mesure. Il l'encourage à mettre fin à ce cycle épouvantable de sentiments et de ressentiments pour, en fin de compte, revenir à des choses bonnes, à des choses louables. Il le met en garde et lui dit que le péché couche à sa porte et, en fin de compte, que les choses vont s'accumuler. Tout d'abord, l'orgueil, puis la mauvaise présomption de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait que son offrande était bonne. Il a fait une supposition. Il était présomptueux. Pour ensuite revenir à la réalité des événements, son offrande n'est pas agréée. Et donc, voilà, la jalousie devant le succès de son frère ensuite, puis la colère. Et enfin, l'envie et le meurtre. Ce n'est pas normal, je vais rétablir les choses à ma façon et je vais tout de même bénéficier de ce que je souhaitais dès le départ. Caïn aurait pu répondre à Dieu, il aurait pu parler à Dieu, il aurait pu reconnaître son péché d'irritation jalouse et envieuse devant Dieu pour ensuite adopter une attitude proactive. Comment est-ce que je vais résoudre cette affaire? Et aller voir son frère. Aller voir son frère. Avec une toute autre attitude. C'était possible. Dieu le lui avait dit, mais toi, Caïn, domine sur le péché. Domine sur lui. Caïn savait ce qu'était le péché. Regardez son frère avec d'autres yeux. Oui, allez voir son frère. Le voir maintenant sous un jour différent avec, la réalité de la fraternité. C'était son frère. Reconnaître, peut-être avec lui, le succès d'Abel, aller jusque-là, et lui dire, ces choses sont arrivées parce que tu as fait une bonne offrande. Tomber d'accord ensemble sur les raisons de ce succès d'Abel. Vouloir en savoir plus sur la façon de réussir ensemble, en s'aidant l'un l'autre, en s'aimant l'un l'autre, en s'appréciant l'un l'autre, dans une relation gagnant-gagnant, et non pas, comme nous allons le voir, dans une relation perdant-perdant. Abel meurt, Caïn est banni. En fait, c'est toute l'histoire de l'humanité que nous voyons se dérouler ici, sous nos yeux, dans ces versets, en arrière-plan, en filigrane. C'est comme l'avertissement d'une malédiction qui pourrait survenir, et qui va survenir. Nous connaissons la suite de l'affaire Caïn. Irrité, il finit par tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux, parce qu'il était envieux. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5 et au verset 19, l'apôtre Paul établit la liste particulièrement longue des œuvres de la chair. Et parmi elles, dans cette liste, il cite les animosités, c'est-à-dire une colère sourde, plus ou moins dissimulée, ce qui peut se voir parfois dans les yeux. La jalousie, l'envie, les rivalités, au final, la haine. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous en présence, parfois, d'une colère dont nous avons du mal à nous débarrasser? Par exemple, quand une personne nous snobe, quand elle nous ignore, quand elle nous fait une réflexion désagréable même, qui nous froisse, qui nous vexe, nous devenons méfiants. Nous n'avons pas envie que les choses se reproduisent. Nous prenons nos distances. Alors, comment faire pour rétablir la confiance, pour nous ramener ensemble, frère avec frère? Ce n'est pas impossible, mais dans certains cas, reconnaissons-le, cela aussi peut prendre du temps. Cela peut prendre du temps. Voici donc quelques conseils, tout de suite, maintenant, là, pour rétablir une relation apaisée avec une personne qui nous a froissés, une personne qui nous a vexés, et avec laquelle il est difficile de trouver des occasions de se côtoyer à nouveau et peut-être de se parler. Alors, premièrement, s'il y a eu une offense grave, si l'offense est réelle, est suffisante pour être mentionnée de but en blanc, mais seul à seul, alors, effectivement, nous devrions le faire, nous devrions en parler avec la personne, bien sûr avec une attitude appropriée. Et Jésus-Christ nous encourage à le faire. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 15, il dit ceci, « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Alors, ça peut être un péché dirigé contre nous, ou ça peut être un péché dirigé contre une autre personne. Mais il faut, dans un cas comme dans l'autre, si l'affaire est grave, si elle est sérieuse, aller le voir. Attention, j'ai vu telle chose. Va et reprends-le entre toi, dit Christ, entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà ce que nous espérions dans le cas de Abel et de Caïn. Les choses sont reconnues. Alors, si l'attitude, deuxième possibilité, si l'attitude est méfiante, simplement méfiante, d'un côté ou même des deux côtés, sans qu'il y ait de réelle offense, mais simplement une méfiance, une incompréhension, ou un manque d'appréciation, pour une raison ou pour une autre. Bref, une difficulté à établir ou même à rétablir une bonne relation, une relation saine, normale, sincère et durable. On appelle cela, souvent, dans le monde des relations humaines, une incompatibilité d'humeur ou une incompatibilité de caractère. Et les directeurs des ressources humaines le connaissent bien ce phénomène. Cela n'arrive pas souvent, mais il faut trouver des solutions, ne serait-ce que dans une entreprise. Souhaitons-le, des solutions qui seront des solutions, évidemment, de réconciliation. Sinon, il faut prendre d'autres dispositions, malheureusement. Et dans ce genre de situation, pour nous, chrétiens, nous savons bien que la solution privilégiée, c'est la prière. La prière, mettre ses problèmes entre les mains de Dieu. Dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à en parler à Dieu. Il faut anticiper les difficultés, même. Nous savons que nous allons rencontrer telle ou telle personne. Aïe, ça risque de ne pas très bien se passer. Bon, comment est-ce que faire? Il faut se préparer, d'accord? La prière, en premier lieu. La prière. Je me souviens de plusieurs situations, personnellement, que j'ai pu, heureusement, anticiper. Dans plusieurs cas, je savais exactement à l'avance que je rencontrerais une personne avec laquelle la relation risquait d'être tendue, quoi que je fasse. Il risquait d'y avoir une méfiance, et peut-être que la journée allait être gâchée, ne serait-ce qu'à l'occasion d'une réunion, d'une invitation chez quelqu'un. Tiens, voilà, cette personne va venir aussi. Je le savais à l'avance. Par exemple, le jour de l'Action de Grâce aux États-Unis, nous nous réunissons avec plusieurs couples, avec plusieurs célibataires. Nous sommes souvent nombreux. C'est une occasion de fraternité, ou même à l'Assemblée, à l'Église. Comment réagir? Eh bien, presque à chaque fois, par la prière, grâce à l'intervention de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, notre rencontre, en tout cas dans les cas que j'ai vécu, notre rencontre, pratiquement toujours, a débouché, avec telle ou telle personne, sur une journée paisible, sur une journée apaisée. Voilà la puissance de Dieu. Dieu peut rétablir une atmosphère détendue. Dans un autre cas, j'ai fait face à une situation tout à fait différente. Soudainement, une attitude volontairement offensante, ou disons déplaisante. Et ça s'est passé à l'église. Ça s'est passé lors d'une assemblée. Dans l'église, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, ou en tout cas qui m'est arrivé souvent. C'est plutôt une exception. Mais dans le cas de cette personne, comme ce n'était pas la première fois que cela se produisait, et d'ailleurs nous en avions parlé ensemble auparavant, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller voir directement le pasteur, immédiatement. Je suis allé le voir et pour lui expliquer sur le champ la situation. Mais je l'ai fait sans lui mentionner le nom de la personne. Et d'ailleurs, il n'aurait pas pu deviner très franchement le nom de cette personne. Du reste, dans la conversation, le pasteur ne m'a pas demandé le nom de la personne. Effectivement, ce n'était pas nécessaire à ce stade. Vous savez, quand on recherche la paix, il vaut mieux laisser la question entre les mains de Dieu plutôt que de chercher systématiquement à dénoncer, ce qui pourrait d'ailleurs nuire, si nous nous sommes trompés nous-mêmes, cela pourrait nuire à la réputation de la personne. Il faut donc rechercher la paix, rechercher avoir cette attitude de la main tendue, plutôt que de chercher les récriminations, chercher à alimenter les conflits d'une façon ou d'une autre, et d'en ressortir en quelque sorte vainqueur. Non, dans ce cas précis, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur m'a dit qu'il allait prier immédiatement, lui-même, à ce sujet, pour que ce conflit soit résolu. Il a pris cette affaire au sérieux. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, une minute à peine plus tard, j'étais juste à côté de mon alter ego problématique, de mon frère en Christ, qui posait problème à mon avis, et l'atmosphère s'est trouvée détendue. Nous avons eu l'occasion d'échanger quelques secondes, simplement, une conversation, l'affaire était calmée. Et c'est formidable. Nous avions la possibilité, nous avions un changement radical, l'un et l'autre, en tête, et il n'y avait plus de vexation, il n'y avait plus une attitude différente. Quand vous voyez cela, vous êtes dans la joie, vous retrouvez enfin un véritable soulagement, je dirais. Notre Père Céleste intervient, il voit ces choses, il veut intervenir pour le rétablissement de la paix. Nous le savons tous par expérience, et ces choses que je viens de mentionner vous sont peut-être arrivées, lorsqu'un conflit apparaît, lorsqu'une situation déplaisante survient, chacun d'entre nous, nous pensons de prime abord avoir raison. Nous pensons que nous sommes dans notre bon droit. Mais il se peut qu'en fait nous soyons en train d'éprouver, c'est possible, une colère égoïste, centrée sur nous-mêmes, sans vraiment prendre en compte le cas de l'autre, peut-être ses difficultés, peut-être sa journée, son problème, peut-être, comme on dit, s'est-il levé ce matin du pied gauche, les choses se sont mal déroulées, et peut-être aussi mène-t-il un combat quotidien contre le péché, contre une mauvaise tendance. Donc soyons miséricordieux, ayons cette compréhension, Dieu voit tout, il voit cette journée que lui a. Nous ne voyons peut-être pas ces choses. Donc toujours, et encore une fois, je le répète, il faut laisser le bénéfice du doute. Dieu voit ces choses et il fera justice, ou il fait justice, souvent très rapidement. La première chose à faire en ce qui nous concerne, c'est de nous demander pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi suis-je irrité? Nous l'avons vu dans le cas de Caïn. Nous devons faire preuve d'honnêteté, c'est fondamental. Cela peut exiger aussi de sages conseils de la part de ceux qui nous connaissent, de la part de ceux qui savent que nous avons peut-être une tendance à être un peu irrités, parfois, inutilement, pour des raisons que nous imaginons bonnes, mais qui ne sont pas réelles. Ceux qui nous connaissent bien, qui ont vu ces choses de par le passé, peuvent nous aider. Dieu, nous l'avons vu, avait demandé à Caïn les raisons de sa colère. Mais cette même question divine, elle apparaît plusieurs fois dans la Bible. Elle apparaît en d'autres occasions, sous d'autres formes, par exemple, bien des siècles plus tard, avec le prophète Jonas. La situation alors était fort différente. Mais au chapitre 4 du livre de Jonas, nous voyons effectivement des événements intéressants. Et Jonas s'irrite. Il s'irrite de ce que l'Éternel ne va pas détruire la ville de Ninive. Une ville qui était, il est vrai, entièrement engluée dans la méchanceté. L'Ancien Testament, selon la Tanakh, parle de son iniquité. Et Ninive risquait, c'était ce qui risquait d'arriver, Ninive risquait d'être purement et simplement rayée de la carte, d'être détruite, à moins que les habitants ne changent de comportement, et qu'ils se nettoient complètement de la saleté des péchés en question. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont jeûné, un jeûne a été proclamé par les autorités de la ville, et ils ont jeûné, ils ont changé de comportement, et Dieu a vu ces choses immédiatement. La sentence était levée. Dieu qui est miséricordieux et fidèle a décidé, en conséquence, d'épargner Ninive. Apparemment, cette décision divine, n'a pas plu à Jonas. Mais alors, pas du tout. Dieu le remarque et lui dit ceci. Il lui pose une question. Il lui dit, fais-tu bien de t'irriter ? Comme nous le lisons dans Jonas chapitre 4, verset 4. Et là, encore une fois, nous voyons la douceur de Dieu qui cherche à le raisonner. Jonas était tellement en colère qu'il voulait, perdu dans son incompréhension, perdu dans son irritation, il voulait se laisser mourir. C'était à ce point-là. Il regardait sa vie d'une étrange manière. Toutefois, rappelez-vous, il avait passé par des moments difficiles. Il a été jeté d'un navire par-dessus bord par des marins qui le maudissaient, qui mettaient sur lui des malédictions, pensant que c'était lui la raison de tous leurs déboires. Puis ensuite, il est avalé par un animal aquatique gigantesque, dans le ventre duquel il va rester 3 jours et 3 nuits, donc on peut supposer qu'il est peut-être décédé. Et ensuite, revenu à lui, il va se diriger vers Ninive. Il va finalement obéir à Dieu. Autant d'événements qu'il aurait pu éviter quand nous examinons les choses. Mais ici, parce qu'il n'obtenait pas la punition de ces Ninivites, des païens qui allaient obtenir le pardon et la grâce de Dieu, eh bien Jonas s'irritait. Dieu le lui fait remarquer, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et la suite du récit nous montre que Dieu va continuer à encourager Jonas, de sorte qu'il puisse retrouver le sens des proportions, de sorte qu'il puisse se concentrer sur les autres plutôt que sur lui-même. La colère de Jonas était injuste, nous le comprenons bien. Au verset 11, Dieu conclut, il lui dit en substance, « Regarde ton attitude. » Il dit ceci, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux sont en grand nombre. » Autrement dit, qui ne savent pas distinguer la droite de leur gauche, qui ne savent pas discerner les choses correctement. Cet exemple, facile à comprendre, surtout quand on n'a pas vécu ce par quoi Jonas est passé, cela nous aide à réaliser à quel point il est important pour nous de faire une pause, de regarder les choses telles qu'elles sont, au lieu de nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Jonas pensait que son irritation était juste, et il savait ce qui allait arriver. Il savait que Dieu était miséricordieux. Il voulait voir encore ce qui allait arriver à la ville. Il ne perdait pas espoir quant à ses opinions, même après la décision de Dieu de ne pas détruire Ninive qui s'était repentie. Quelle est la leçon pour nous dans ces événements ? Il nous faut apprendre à marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, accepter les décisions de Dieu dans nos vies. Ça prend du temps. Parfois, ce n'est pas facile. Pour cela, il nous faut aussi persévérer jour après jour dans la prière, ne pas nous décourager, attendre la réponse de Dieu qui n'est pas définitive, comme nous l'avons vu. La décision de Dieu est toujours, toujours la meilleure, quoi que nous pensions sur le moment, quelles que soient les décisions que nous prenons nous-mêmes dans nos vies, la décision de Dieu est toujours la meilleure. Dieu possède une sagesse, une perspective que nous n'avons pas encore. Loin s'en faut, à combien plus forte raison devons-nous nous plier à ces décisions dans nos vies. La nation d'Israël savait que Dieu récompenserait pour l'obéissance et punirait à cause de la désobéissance. C'était marqué dans la loi. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, verset 29, reportons-nous-y, Ézéchiel, chapitre 18, verset 29. Dieu dit ces choses, il corrige Israël qui pense avoir raison, alors que eux-mêmes se continuent ou persévèrent dans les péchés. Ils pensent que Dieu les maltraite et Dieu les ramène à la raison. Ézéchiel, chapitre 18, au verset 29. Je lirai plutôt dans la version Martin. Dieu dit, mes voies ne sont-elles pas bien réglées? Il pose une question. Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas bien réglées? Autrement dit, regardez-vous vous-même. Je suis le Dieu d'Israël. Et vous dites que je me comporte de façon injuste? Mes voies ne sont-elles pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas bien réglées? Israël pensait qu'ils étaient traités injustement. Quant à nous, nous savons bien que la vie ici-bas n'est pas juste. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu ne sont pas encore rétablis sur la terre. Il y a des injustices. En diverses circonstances, nous-mêmes, nous pouvons être traités de façon injuste. Mais Dieu, lui, est juste. Il peut nous protéger de l'injustice ou des conséquences de l'injustice dans nos vies. Nous pouvons faire appel à lui. Et Dieu avait prévu que les êtres humains prendraient leurs propres décisions avec toutes les conséquences auxquelles elles mèneraient, en particulier les injustices. Dieu savait que ces choses allaient arriver. Heureusement, l'avenir est réjouissant. Il n'en sera pas toujours ainsi. Ce sont la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu qui finiront par prévaloir. C'était une certitude aussi certaine, si j'ose dire, que le fait que le soleil se lèvera demain. Dieu ne nous a pas laissés ignorants à ce sujet. Et les prophéties de la Bible nous en parlent abondamment. La justice et l'injustice, selon la version de Dieu, sont clairement explicitées dans la Bible. Nous avons notre feuille de route. Alors, qu'en est-il de nous, intimement? Quelle est notre version de la justice et de l'injustice? Sommes-nous persuadés de ces choses? Savons-nous discerner l'une de l'autre? Et en particulier, est-elle conforme, ce discernement est-il conforme à celui de Dieu, à la conception de Dieu de la justice et de l'injustice? Se pourrait-il que nous soyons mécontents ou même en colère parce que nous ne reconnaissons pas dans nos vies la justice de Dieu? En général, d'ailleurs, si la colère surgit en nous, c'est que nous estimons avoir été frustrés ou traités injustement. Et c'est ce que Israël pensait. Alors, si mécontentement il y a, que ce mécontentement est mené à la colère ou à l'abattement, quelles en sont les raisons? Quelles en sont les raisons? Nous devons répondre à cette question. Premièrement, nous aimons bien sûr que Dieu soit bon avec nous, ça ne fait aucun doute, là nous sommes toujours d'accord. Et puis nous aimons aussi que Dieu soit bon avec les autres. Mais à quel point? À quel point? La bonté de Dieu devrait être aussi gracieuse pour les autres qu'elle ne l'est pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais si nous pouvons dire cela avec les autres, pouvons-nous dire cela avec tous les autres? Pensons-y un instant. En toute honnêteté, pensons-y un instant. Vous savez, Jonas avait son idée là-dessus. Il pensait que les Ninivites ne devaient pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? Il devait se poser cette question. Deuxièmement, l'inverse peut très bien arriver aussi. D'autres personnes ne voient peut-être pas d'un aussi bon œil que nous le fait que nous recevions certaines bénédictions, certains bienfaits, et ce que nous estimons juste, cela peut représenter peut-être pour d'autres personnes une injustice, un conflit d'intérêts, que sais-je, une chose qui ne devrait pas arriver. Troisièmement, nous pouvons voir ce que Dieu accorde aux autres, mais nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe dans leur vie, je l'ai déjà mentionné. Dieu voit tout ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il en tient compte dans sa miséricorde. Donc peut-être qu'en raison de notre ignorance au sujet de la vie des autres, nous manquons de cette miséricorde. Et nous laissons nos opinions faussées prendre le dessus. Nous pensons que la situation est injuste et nous en sommes donc mécontents et irrités. Voilà une autre raison pour laquelle nous pourrions être irrités. Et puis, quatrièmement, nous avons tous soif de justice. C'est une bonne chose. y compris pour le monde dans son ensemble. Mais quelle est l'étendue réelle, encore une fois, de cette soif de justice que nous prétendons être en nous? Celle de Dieu, elle est totale. Elle est parfaite, elle est complète, mais la nôtre serait-elle sélective, à géométrie variable? Cacherait-elle un égoïsme sélectif? Vous savez, sans la sagesse divine, comme l'apôtre Jacques le dit dans son épître, au chapitre 3, au verset 17, sans la sagesse divine, notre définition de la justice peut être égoïste. Elle peut être partielle, elle peut être partiale, et elle peut être hypocrite. Donc faisons attention à ces choses. Dieu nous invite aussi à répondre à sa question, je l'ai dit. Il demande la raison de notre colère quand celle-ci se présente. Est-elle juste? Et qu'est-ce qui nous permet de prétendre, finalement, qu'elle est juste? Sur quoi nous basons-nous? Nos opinions personnelles ou bien la parole de Dieu? Dieu souhaite de tout cœur nous éviter des souffrances inutiles. Il ne veut pas non plus que nous fassions souffrir les autres, bien entendu. Donc soyons lents à la colère, comme Dieu est lent à la colère. Donnons-nous du temps pour nous examiner, plutôt que de partir dans toutes les directions et sur un coup de tête. Prenons le temps de la réflexion. L'apôtre Paul nous encourage à régler nos différends et nos mécontentements le plus vite possible, sans attendre, dans la mesure de nos moyens, de faire tout ce que nous pouvons faire. Et voilà, voici ce qu'il dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 26. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Il parle directement du sujet de la colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, précisément, ne péchez point. Autrement dit, la colère n'est pas nécessairement un péché direct. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. N'allez pas dans la mauvaise direction. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, il faut aller devant Dieu. Il faut prier, chacun de notre côté, en couple, ou peut-être mieux, justement, nous pouvons prier ensemble, chacun notre tour, et exposer les faits qui peuvent venir d'un différend, d'un problème, d'une irritation. Prenons maintenant l'exemple d'une autre personnalité biblique. Examinons le cas de Moïse. Nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 3, que Moïse était un homme d'une grande patience, plus qu'aucun autre homme sur terre, nous est-il dit. Et le mot hébreu original, traduit en français par patient, est anav, qui peut être traduit aussi par humble, ou encore, selon la plupart des traductions, très modeste, extrêmement débonnaire, soumis, conciliant, le plus doux des hommes sur terre. On imagine bien Moïse comme quelqu'un de calme, peut-être de contemplatif, bien qu'il soit fort, bien qu'il soit un ancien général, d'une perfection presque absolue sur le plan du tempérament, et ce qui nous est dit d'ailleurs ici. Et pourtant, dans la vie de Moïse, que voyons-nous? Que s'est-il passé? Notamment, souvenez-vous, dans sa jeunesse, au tout début du livre de l'Exode, Exode chapitre 2, versets 11 et 12, que se passe-t-il? Moïse commet un meurtre prémédité. Tout d'un coup, l'humilité, la douceur, le calme, tout cela avait disparu, tout cela s'était évanoui. Plus tard, nous verrons Moïse perdre patience à nouveau, perdre son sang-froid, sa colère s'enflamme, en voyant Israël se livrer au péché. Et il, alors ce n'est pas une mauvaise chose, jusqu'au moment où il va commettre quelque chose de regrettable. Il va briser les tablettes sur lesquelles Dieu venait d'inscrire les 10 commandements. De son doigt, il brise les tablettes en voyant Israël se livrer au péché. C'était un acte évidemment irréfléchi, subi. Il a certainement regretté plus tard cet acte. Ce n'est pas comme cela que Dieu voyait les choses. Moïse lui-même a dû tailler 2 autres tablettes de pierre. Il a dû à nouveau se rendre au sommet du mont Sinaï et Dieu, afin que Dieu puisse écrire de son doigt les 10 commandements à nouveau. Il est bien probable aussi que par cette leçon, Dieu voulait lui montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Rappelez-vous, dans l'Égypte ancienne, les dieux païens étaient souvent la personnification d'anciens héros humains, comme Tammuz ou Sémiramis, des souverains mésopotamiens, dont le souvenir s'est perpétué dans la civilisation égyptienne. Alors, Moïse était-il influencé par ces modèles dans son caractère? Avait-il du mal à se différencier de Dieu dans certaines de ses prérogatives, tout au moins? Quoi qu'il en soit, il est bien probable aussi que par cette leçon des nouvelles tablettes, Dieu voulait apprendre à Moïse à contrôler sa colère. Pour Dieu, il est possible de se mettre en colère et de ne pas pécher. Comme l'écrit Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, que nous venons de lire, ceci nous montre que Dieu a une colère qui est toujours, toujours justifiée. D'un côté, Moïse était donc un homme doux, un homme patient, bon, miséricordieux, mais il avait encore de graves sautes d'humeur. D'un côté, Moïse avait un grand caractère, un caractère d'amour, un caractère de droiture. Rappelez-vous, à une occasion, même Moïse intercède auprès de Dieu qui veut, il essaye de lui faire renoncer à ce qu'il envisageait de faire. Il voulait littéralement, encore une fois, détruire la nation d'Israël et faire de lui en plus. C'était même une perspective intéressante pour Moïse, quand on y réfléchit. Dieu a dit à Moïse qu'il détruirait les Israélites et qu'il ferait de lui, Moïse, une grande nation. C'était quelque part une perspective intéressante, on peut se demander. Mais au contraire, Moïse ne va pas l'entendre de cette oreille. Il va intercéder pour que Dieu épargne Israël. Il ne pense pas à lui, il pense à la nation. Il pense à des gens qu'il connaît, il pense au peuple. Et finalement, c'est intéressant, Dieu renonce, après la supplication de Moïse, à détruire le peuple. Quel exemple pour nous que celui de Moïse, l'exemple d'un homme extraordinaire, capable de faire passer son souci des autres avant ses propres intérêts, avant ses ambitions. Combien d'autres personnes, quand nous y pensons bien, combien d'autres personnes auraient répondu à Dieu qu'il avait tout à fait raison de vouloir faire mourir tout un peuple pour devenir ensuite le père d'une nouvelle nation? Mais Moïse n'était pas du tout de cette trempe-là. Et c'est certainement pourquoi, ou tout au moins l'une des raisons pour lesquelles il sera aux côtés de Christ à la première résurrection. Encore une fois, malgré ses échecs, malgré ses imperfections, malgré le piège de la colère dans lequel il est tombé plusieurs fois, et qui notamment, finalement, a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Alors, effectivement, à quelle occasion Dieu a-t-il pris cette décision de ne pas faire entrer Moïse dans la terre promise? Eh bien, la situation des eaux de Marah, hein, que s'est-il passé exactement? Le peuple dans le désert se plaignait du manque d'eau. Nous ferions probablement la même chose. Dieu avait donné de multiples exemples, pourtant, de son intervention en temps et en heure. Le peuple n'était pas abandonné, il suffisait d'attendre. L'intention de Dieu n'était pas que le peuple meure, évidemment, évidemment. Nous comprenons justement que c'est la question de cette attitude qui est importante. Elle est au centre des questions d'obéissance. Dieu voulait voir l'attitude, il voulait voir le degré de soumission et de confiance du peuple, y compris celui de Moïse, qui malgré toutes ses qualités a vécu un échec terrible. Cet échec, il n'a pas pu entrer dans la terre promise physique. Dieu avait dit à Moïse, dans les détails, de prendre le bâton de Dieu, le symbole de l'autorité, et d'aller parler au rocher, lui et son frère. Donc les deux, Moïse et Aaron, devaient aller devant le peuple, parler, non pas au peuple, mais parler au rocher. Les deux hommes devaient le faire. C'était le programme prévu. Pourquoi faire ? Pour que le rocher produise ses eaux. C'était le déroulement prévu, parfaitement orchestré, de ce qui devait se passer devant le peuple, aux yeux du peuple. Souvenez-vous, pourquoi le rocher ? Alors, souvenons-nous que Christ est le rocher d'Israël. Il est le sauveur de l'humanité. De lui, au moment de sa mort, du reste, à la crucifixion, rappelez-vous, du sang et de l'eau vont jaillir de son côté. Aussi, dans Ézéchiel 47, des eaux sortent du sanctuaire de Jérusalem pour aller arroser toutes les nations, pour aller guérir les nations. Et ici, le peuple a besoin d'eau. Nous allons mourir, nous avons besoin d'eau. Et du rocher va sourdre de l'eau. L'eau qui vient du rocher d'Israël, qui vient de Christ. Le symbole est particulièrement puissant. Or, que fait Moïse ? Écoutez donc, rebelles, voilà ce qu'il dit. Il parle au peuple, il ne parle pas au rocher. Il dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher-là ? C'est-à-dire, est-ce de ce rocher que nous, deux, c'est-à-dire Moïse et Aaron, nous vous ferons sortir de l'eau ? C'est pas du tout ce que Dieu avait dit de faire, ni de dire. C'est pas du tout ce que Dieu avait prévu, avait demandé. Puis Moïse leva la main et frappa avec le bâton de Dieu deux fois le rocher. Et Moïse savait ce qu'il devait faire. Il savait que ce n'était pas du tout ces choses-là. Mais il décide de se manifester différemment. Premièrement, il ne parle pas au rocher, il parle au peuple, nous venons de le voir. Deuxièmement, il annonce que c'est lui et Aaron qui feront sortir de l'eau du rocher. Alors que c'est Dieu qui va le faire. Et puis troisièmement, il joint le geste à la parole en frappant deux fois le rocher avec le bâton de Dieu. Et on pourrait supposer qu'il donne un coup pour lui et un coup pour Aaron. C'est juste une supposition, quoi qu'il en soit, c'est sans équivoque un geste de commandement envoyé au rocher, presque comme un aiguillon qui veut guider un bœuf, vous savez. Et en faisant cela, Moïse ne rend pas à Dieu le mérite et la gloire. Il laisse sa colère prendre le dessus. Dans sa colère, il s'arroge cette autorité, qui ne lui revient pas, et ce mérite de faire jaillir de l'eau du rocher. Dieu aurait pu refuser à ce moment-là de faire jaillir l'eau du rocher, de sorte que Moïse revienne à lui et change son attitude. Mais on peut se demander ce qui aurait subsisté, d'ailleurs, de l'autorité de Moïse après ces événements aux yeux du peuple, après une telle décision. Tiens, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ? Moïse a perdu l'autorité. Ça aurait pu être une raison. Dieu connaissait aussi le cœur de Moïse. Il connaissait le cœur de chaque personne dans le peuple, cet immense peuple. Ce n'était peut-être pas le moment, on peut le supposer, ni pour Moïse, ni pour le peuple. En tout cas, Dieu permet que l'eau jaillisse donc du rocher. Le peuple est abreuvé, le bétail est abreuvé, la vie est sauvée, la vie est préservée. Mais Dieu annonce à Moïse et à Aaron qu'ils n'entreront pas dans la terre promise, parce qu'ils n'ont pas respecté Dieu et qu'ils n'ont pas suivi ses instructions. Ils n'ont pas suivi ses instructions. Et Dieu a fait même retranscrire les actions irréfléchies de Moïse dans le livre des psaumes. Dans psaume 106, versets 32 à 33, le psalmiste écrit ceci. Ils irritèrent, c'est-à-dire nos pères, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Il s'exprima légèrement des lèvres. Alors tout à l'heure, parler des eaux de Mara, non, en fait, il s'agit des eaux de Meriba, tel que il est mentionné ici. Et il est vrai que les Israélites n'étaient pas un peuple très discipliné. Nous le lisons tout au long du livre de l'Exode. Mais Dieu voulait que Moïse, le chef de son peuple, sache faire preuve de maîtrise de lui-même. Il n'était pas admissible que Moïse puisse s'emporter et prendre des décisions irrationnelles dans le feu d'une colère incontrôlée. Dieu ne pouvait tout simplement pas se permettre de laisser Moïse réagir comme il l'a fait. Cette mesure de redressement subie par Moïse a certainement pesé sur son cœur tout le reste de sa vie. Moïse, toutefois, s'est repenti. Il a changé de comportement, il a appris sa leçon. Au final, il a été un grand héros de la foi, qui jouera d'ailleurs un rôle important dans le royaume de Dieu. Pourtant, il a dû faire face aux conséquences. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise physique. Il l'a vu de loin, Dieu la lui a montré, au sommet du mont Nebo, qui sépare Israël de la Jordanie, aujourd'hui. Et pourtant, il attendait ce moment depuis si longtemps. Sa leçon a été préservée pour nous, afin de nous aider, nous aussi, à voir à quel point il est sérieux d'apprendre à contrôler notre colère. Parmi les autres personnalités bibliques qui n'ont pas su contrôler leur colère, et dont l'exemple nous est laissé, à certains moments, nous voyons justement les disciples Jacques et Jean, que Jésus avait choisis parmi ses 12 apôtres. Il les appelait les fils du tonnerre, en grec boanerges. Apparemment, ils savaient parfois qu'ils avaient tendance à perdre patience, semble-t-il, comme nous le lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et au verset 51 à 56. Alors, que nous dit le récit de cet événement? Jésus traversait la Samarie avec Jacques et Jean, et ils étaient en route vers Jérusalem. Et un soir, ils ont eu des difficultés dans un bourg, dans un village, pour trouver un logement pour la nuit. Pourquoi? Les gens savaient qu'ils étaient juifs. Ils savaient qu'ils étaient non pas des Samaritains du nord d'Israël, mais que les juifs méprisaient d'ailleurs pour des raisons légales, pour des raisons historiques aussi. Mais il y avait des préjugés entre juifs et Samaritains, nous le voyons à plusieurs reprises dans les évangiles. Personne ne voulait les héberger. Et la colère des deux hommes commence à s'enflammer. Jean et Jacques sont tentés de parler à Christ et de lui demander la permission de faire quelque chose de particulièrement terrible. Ils lui disent ceci: « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme le fit Élie ?» Alors effectivement, Élie a appelé, a prié et a permis que le feu consume des Israélites qui étaient venus l'arrêter ou qui avaient l'intention de lui faire du mal. L'affaire est sérieuse et Jésus va immédiatement les corriger. Il leur répond ceci: « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Autrement dit, quel est l'esprit qui est en vous? Car le Fils de l'homme est venu, dit-il, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, je ne suis pas venu pour détruire la ville qui nous a accueillis, mais qui refuse de nous héberger. Vous voulez le faire, vraiment. Jacques et Jean étaient certainement très remontés par ce mépris, par finalement le dédain. Ils étaient avec le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas reçu. L'affaire est sérieuse, effectivement. Mais ils pouvaient aussi souffrir le fait de ne pas être hébergés. Christ, en tout cas, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il n'était pas question pour eux, ni de demander le feu du ciel sur la ville, ni même pour lui-même de faire la même chose. Il ne voulait pas laisser faire ces choses. Il était plus soucieux de les placer devant leurs responsabilités à cette occasion. C'était une occasion de les enseigner, de reconnaître la vraie teneur de leur pensée. Ils avaient besoin de savoir de quels esprits ils étaient animés. C'est ce que nous devons faire nous aussi. Est-ce que c'est bien de penser ces choses? Est-ce que si moi-même j'étais victime de ce genre de punition, pour telle ou telle raison, ou quelqu'un de ma famille, est-ce que ça me ferait plaisir? C'est ça le but, d'essayer de savoir ce que nous pensons, de nous mettre à la place des autres. Dieu est miséricordieux, il y aura un moment où la colère de Dieu va effectivement se répandre sur les nations. Mais cela est prévu pour le second avènement de Jésus-Christ. Ce n'était pas prévu pour le premier avènement. Et c'est ce qu'il dit ici. Il appelait les gens au repentir. On peut se demander s'il n'y a pas eu d'autres moments similaires où, dans la vie de Jacques et de Jean, de telles choses se sont manifestées. En tout cas, de la sorte. Mais ils étaient deux des amis les plus proches de Jésus. Ils ont vu son exemple en action. Et ils ont changé sur le plan du comportement. Ils se sont efforcés de vivre comme lui vivait et de marcher comme lui-même a marché. Jésus les a puissamment enseignés pour leur responsabilité future. Ils se sont repentis et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est là que l'Esprit de vérité les a guidés. Là, ils savaient de quels esprits ils étaient animés. Cet Esprit les a aidés puissamment à surmonter leur colère et à adopter une attitude différente, une approche différente en face des événements de la vie. Jean, par exemple, est devenu l'apôtre qui, plus tard dans sa vie, comme il est écrit dans ses trois lettres, dans ses trois épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est motivé et il est inspiré par l'amour de Dieu. Une merveilleuse transformation. Et il décrit d'ailleurs ce qu'est le véritable amour. C'est d'observer les commandements de Dieu, nous le lisons dans ses épîtres. Nous voyons donc dans la vie de Jean cette transformation de l'un des fils du tonnerre, l'un des Boanerges. Il est devenu l'un des apôtres de Christ, après avoir marché avec Christ pendant ces quelques années, il est devenu un apôtre de l'amour, exprimant l'amour de Dieu, expliquant l'amour de Dieu. Un autre exemple d'homme biblique, au caractère soupolet, comme on dit en français, quelqu'un qui est susceptible de se mettre en colère instantanément, Pierre, l'apôtre Pierre. Au moment de l'arrestation de Christ, alors que personne ne lui demandait rien, tire son épée, tranche l'oreille du serviteur Malchus, serviteur du grand prêtre. Jésus lui ordonne alors immédiatement de ranger son épée dans son fourreau. Et il lui donne un sérieux avertissement. Et puis, immédiatement, il guérit l'oreille blessée de Malchus, qui doit d'ailleurs saigner abondamment. Pierre était juif, il était descendant de la tribu de Judas, fils d'Israël, bien que d'ailleurs son caractère impulsif fasse penser à celui de Ruben, le frère de Judas, dans Genèse chapitre 49, rappelez-vous, Ruben, impétueux comme les eaux, le premier-né d'Israël, Ruben qui agit avant de réfléchir. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs dans la Bible à avoir agi ainsi, nous le savons bien. Mais Pierre avait ce caractère bien trempé, ce caractère aussi impulsif malheureusement, qui pouvait le pousser, selon les circonstances, à une décision certes audacieuse, souvent courageuse, parfois téméraire, sabre au clair, allons-y, chargeons, et quelquefois malheureusement des décisions et plutôt des impulsions colériques. Pierre a finalement appris sa leçon. Dans 1 Pierre, nous découvrons un Pierre tout à fait différent. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, reportons-nous-y, 1 Pierre, chapitre 2, et lisons à partir du verset 18. Pierre devient très différent au moment de son apostolat. Il a changé depuis l'arrestation de Christ. Il a accepté l'attitude de sacrifice de son maître et sauveur, Jésus-Christ, notre sauveur. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18, où il dit ceci, il écrit aux frères, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Voilà l'attitude qui doit remplacer la colère. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est la raison de votre appel. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui viendra dans toute sa gloire. Il a souffert pour vous, pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. On voit l'amour de Pierre qui touchait Jean, touche aussi Jacques et touche aussi Pierre. Bénissez au contraire. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Soyez remplis de compassion, d'humilité, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, afin d'hériter les bienfaits. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et là, c'est la citation de l'Ancien Testament. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et notamment contre ceux qui sont en colère pour des raisons injustes ou malsaines. Donc Pierre, ici, un homme changé, un homme très différent, un homme enseigné par Christ, soumis à Christ, et qui ressemble à Christ. Il a accepté l'attitude de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu jusqu'à l'ultime sacrifice de sa vie. Et nous aussi, nous sommes invités, en tant que chrétiens, à ressembler à Christ. Tant que nous serons humains, nous pouvons être sujets à la colère. Nous serons, malheureusement, toujours pécheurs, jusqu'à notre dernier jour, jusqu'à notre dernier souffle, que nous acceptons gracieusement. C'est Dieu qui décide du moment de la fin de notre vie. Ce n'est pas nous. Certains parmi nous sont plus calmes que la moyenne, mais tous nous devons être en garde contre les mauvaises surprises, des réactions impulsives et colériques. L'un des avantages de la maîtrise de notre colère, nous la voyons dans Proverbes chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. En d'autres termes, celui qui perd son sang-froid manque de compréhension. Les recommandations des médecins, d'ailleurs, confirment que les émotions négatives ont de mauvaises influences sur notre corps, le stress, la colère, le ressentiment, tout cela peut provoquer une multitude de maux. Alors profitons-en et tâchons de nous calmer. Adoptons une attitude détendue, même face aux injustices, exempte de ressentiment, constante ou chronique d'insatisfaction ou de colère. Voyons quelques conseils tirés de la Bible, et notamment du livre des Proverbes, sur la façon de gérer judicieusement la colère. Proverbes chapitre 19, verset 11 nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Proverbes chapitre 19, verset 11. Il met sa gloire à oublier les offenses. Oublier les offenses, apprendre à pardonner encore et encore. Pour certains parmi nous, c'est peut-être un peu plus dur que pour d'autres, certes. Mais nous devons y parvenir. Nous avons chacun notre croix à porter. Pour les uns, ça peut être à cause de leur humeur égale, à cause de leur calme, parce qu'ils sont naturellement posés, parce qu'ils sont naturellement imperturbables, ce sera peut-être plus facile à gérer. Et puis pour d'autres, l'orgueil, la fierté, nous aurons peut-être plus de mal à être capables de juguler cette colère, à la brider. Mais cela en vaut la peine. L'homme qui a de la sagesse met sa gloire à oublier les offenses. Et il y a une gloire à laisser les choses, vous savez, Les chiens aboient, la caravane passe. Le proverbe est fameux, nous le connaissons bien. En d'autres termes, un homme sage passe par-dessus les insultes. C'est tout à son honneur, c'est tout à sa gloire. C'est un verset extraordinaire quand on y pense. Imaginez le combat d'un homme orgueilleux qui change et qui parvient, grâce à l'Esprit de Dieu, à oublier les offenses, à ignorer les provocations, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient même imaginaires. Cela peut nous arriver. Vous savez, parfois, on peut se faire un film, comme on dit en français, et s'imaginer à quel point les autres peuvent nous en vouloir ou se moquer de nous. Faisons attention à cette tendance, un petit peu liée à la paranoïa. Vous savez, l'adversaire est puissant. Le diable, Satan, l'ancien archange déchu, il est puissant, il veut nous détruire. Et il instille toutes sortes de pensées en nous. Résistons au diable, et il fuira loin de nous. Il veut nous enfermer dans ce genre de sentiment, qui ne mène à rien, sinon à davantage de problèmes. La solution, vous savez quoi ? La solution, c'est de toujours laisser le bénéfice du doute, de passer par-dessus les insultes. Et sans le bénéfice du doute. Et mettons les choses entre les mains de Dieu. Dieu connaît la situation, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause. Lui sait. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas toujours. Et si la situation réelle est grave et sérieuse, bon là c'est différent, je l'ai déjà dit, il faut en parler. Mais s'il y a un doute, eh bien avec amour, avec patience, il faut attendre la décision de Dieu. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Proverbe chapitre 29, verset 22. Vous savez, des livres entiers ont été écrits sur les stratégies à adopter pour se faire plus d'amis. Mais si on pouvait les résumer en une phrase, si on veut avoir plus d'amis, il suffit d'être amical. Tout simplement, un homme qui ne s'oppose pas aux autres, systématiquement, là tout le temps, en train de dire ce qu'il pense, il aura plus d'amis et il aura moins d'ennemis. Il sera généralement apprécié, et c'est important. Nous ne sommes pas obligés de tout le temps nous opposer aux autres. Il y a des moments pour le faire. On peut être en désaccord profond avec le comportement des autres, avec leurs opinions, certes, sans se sentir obligé de manifester ce désaccord à tout bout de champ. Si nous étudions la Bible tous les jours, nous savons bien comment nous comporter. Nous apprenons à rejeter le mal et à revêtir le bien. Nous avons cette responsabilité de notre famille, de faire connaître à notre famille ce qui est bien, de les aider à discerner ce qui est bien, mais nous n'avons pas la responsabilité du comportement des autres adultes en dehors de notre famille. Chaque adulte est responsable de lui-même devant Dieu. Donc laissons les gens penser ce qu'ils veulent, et si nous avons l'occasion de nous exprimer, faisons-le calmement, posément. Proverbe chapitre 25, verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Donc une personne colérique qui perd le contrôle de ses émotions révélera souvent des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il va exagérer certaines choses. Proverbe chapitre 13, verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme, mais celui qui ouvre ses lèvres s'expose à la ruine. » Vous savez, dans ma jeunesse, mon instituteur de cours moyen deuxième année, CM2, nous disait souvent « Tournez cette fois votre langue dans la bouche avant de parler ». Je pense que c'est un proverbe fameux en français et nous devrions nous en rappeler de celui-là. Vous savez, réfléchir avant de parler, c'est souvent très très utile. Prenons le temps de réfléchir. C'est une bonne chose à apprendre d'ailleurs à nos enfants dès l'âge de raison, dès l'âge de la lecture et dès l'âge de l'écriture. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et dans le feu d'une conversation échauffée, il peut être difficile de donner une réponse sensée à moins de faire une courte pause, et l'Esprit de Dieu aidant de trouver une réponse douce. Mais si on répond avec des mots incendiaires, agressifs, cela ne fera qu'attiser la colère dans la conversation. Vous savez peut-être, mais deux jours après les événements du 7 octobre et l'enlèvement des otages israéliens, le directeur de l'œuvre francophone, M. Joël Micker, s'est rendu en Tunisie en compagnie de son épouse. Et là, au cœur du Sahara, dans une oasis au sud du pays, ils ont rencontré un commerçant d'abord très très gentil, affable, hein, c'est un commerçant évidemment. Et puis brusquement, il s'est irrité quand il a appris qu'ils étaient citoyens américains, pensant qu'ils étaient juifs. « Et vous aimez les juifs ?» dit le commerçant, très en colère. Et après une courte pause, M. Micker a calmement répondu qu'ils essayaient d'aimer tout le monde, en fait. Et à cette réponse douce, l'homme resta comme figé, tétanisé. Et les mots lui vinrent à ce moment-là à l'esprit. C'est une réponse juste. Sa colère avait disparu. La fureur était calmée, faisant écho à Proverbe, chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous savez, quand un ambassadeur veut apaiser la colère du souverain auprès duquel il représente son pays, il cherchera toujours la politique de la main tendue. Avec douceur, avec sincérité de cœur, avec sincérité d'intention, évidemment c'est son métier, il se détournera des plaintes et des récriminations. Et c'est ainsi que tous nous devons être, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes les représentants du gouvernement de Dieu sur terre. Ni plus, ni moins, c'est ce que Paul a dit, les ambassadeurs pour Christ. C'est une mission sérieuse, et devant quiconque nous demande raison de la foi qui est en nous. Cela dit, nous devons bien entendu continuer de rester sur nos gardes, car contrôler la colère, c'est devenu plus difficile à notre époque, connue pour la rage fréquente, omniprésente, la colère ambiante. L'apôtre Paul écrit ceci à Timothée. Reportons-nous à ce dernier verset, 2 Timothée chapitre 3 et le verset 1. Je parlais des œuvres de la chair, mais voici aussi maintenant les caractéristiques du monde d'aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 3, et allons au verset, nous lirons les versets 1 à 4. 2 Timothée, chapitre 3. Les versets 1 à 4. Il dit ceci à propos des temps actuels. « Sache que dans les derniers jours, c'est maintenant, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, la liste continue, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Ennemis des gens de bien. Voilà le monde d'aujourd'hui. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et le noumanie-toi, dit-il, de ces hommes-là. Voilà la liste de toutes les choses dont nous devons nous préserver. Soyons en garde. Soyons en garde contre ces choses. Faisons appel à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider, plus que jamais, à contrôler toute colère qui pourrait surgir, et nous en récolterons les bienfaits dans nos vies, les bienfaits paisibles que nous pouvons en attendre, dans nos vies, dès maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes un très agréable sabbat, et je vous dis à bientôt.